France Culture. Les nuits de France Culture.
C'est une petite ville du Vietnam dont le nom est entré dans l'histoire en mai 1954. Dien Bien Phu. Une bataille, un désastre pour la France, un symbole pour le Viet Minh et pour tous les peuples qui revendiquent alors leur émancipation du joug colonial. Dien Bien Phu nous est conté dans l'émission que voici par plusieurs de ses témoins et acteurs, dont Marcel Bijard et le général Diap, commandant des troupes du Viet Minh. Dien Bien Phu, 7 mai 1954, c'est le titre de ce numéro de l'Histoire en direct par Patrice Gélinet et Christine Bernard-Sugy, une émission du 2 mars 1992.
Histoire en direct. Dien Bien Phu, 7 mai 1954.
Après l'action offensive de l'opération Mouette, qui provoque la dislocation de la division ennemie numéro 320 et la prise d'un important butin, Castor s'amorce par le parachutage d'un groupement à Dien Bien Phu, à 80 km au sud-est de Lai Châu.
Le 20 novembre 1953, le 8e commandant en chef en Indochine, le général Navarre, et son adjoint le général Cogny, parachutent deux bataillons sur un petit village du Tonkin, près de la frontière du Laos. Cette opération, l'opération Castor, s'annonce bien. En quelques heures, les 1300 paras des commandants Bijard et Bréchignac s'emparent de la cuvette de Dien Bien Phu, un village perdu en pays Thaï, dont tout le monde ignore encore le nom, et où se déroulera bientôt la dernière et la plus grande bataille de la guerre d'Indochine. Une guerre que les soldats français mènent déjà depuis 7 ans, dans l'indifférence générale, à 13 000 km de chez eux. Une guerre à laquelle, en 1953, la France cherche désormais à trouver une issue honorable, faute d'y remporter une victoire décisive sur les soldats insaisissables du Viet Minh. Les Bo Doi de Ho Chi Minh et du général Giap, qui depuis 7 ans mènent une guerre de guérilla et se gardent bien d'accepter la bataille rangée dont rêvent les généraux français. Une bataille qu'ils souhaitent pour profiter de leur supériorité matérielle et écraser les divisions de Giap si elles commettent l'erreur de sortir de la forêt et de se battre à découvert. C'est pourquoi, lorsqu'en novembre 1953, les paras de Bijard prennent Dien Bien Phu pour y construire une puissante base aéroterrestre, l'état-major français ne craint pas une attaque du Viet Minh, il la souhaite.
Le commandement français est sûr d'infliger une sévère défaite au Viet Minh à Dien Bien Phu. Nous nous attendons à des combats durs et longs, nous gagnerons. Général Cogny.
Donc je saute sur Dien Bien Phu avec mon bataillon.
Marcel Bijard.
Et en bas, il y a les Viet qui sont à l'instruction. Il y a plusieurs compagnies. Alors on se fait tirer en l'air, le vent. J'ai une compagnie qui est plus loin. Le temps de récupérer tout ça à la radio. On les mélange avec les Viet. On se tire à bout portant. Mais enfin, j'avais des types tellement entraînés, ça se passe quand même bien. Et au bout de 2-3 heures, le point est fait. Tout le monde se regroupe et on attaque le village de Dien Bien Phu qu'on prend. Et le Viet fout le camp. Donc les Viet ont pu foutre le camp. Mais enfin, dans la quand même, je crois, une centaine, et moi j'ai quand même eu 20 tués ou 30 tués et blessés quand même.
Allô, Radio Française, ici Yves Déjac qui vous parle de Dien Bien Phu, ex-territoire Viet. Nous sommes à Dien Bien Phu à l'occasion de la capture de cette ville par les bataillons parachutistes il y a à peu près une huitaine de jours, à quelque chose près. J'ai actuellement près de moi deux des premiers parachutistes qui furent droppés des Dakotas de la première vague. Vous avez été d'abord prévenu comment de cette opération ? On vous a dit on saute au pays Thaï.
On nous a dit on saute au pays Thaï, mais où, on ne sait pas. Dans l'avion, il faut décollage, c'est-à-dire une demi-heure après, le lieutenant, le chef de notre commando, nous a fait un petit briefing et nous a dit que nous allons sauter à Dien Bien Phu.
Et à ce moment-là, quelle a été votre réaction ?
Tout le monde rigolait, mais nous ne savons pas encore.
Avec un petit pincement du cœur, quoi, parce que tout de même, quand on saute chez les Viet, on ne sait jamais où on va atterrir.
Thank you.
En une semaine, la position de Dien Bien Phu est fortifiée, puissamment armée. Sa situation géographique, ses caractéristiques climatiques en font une forteresse facile à défendre et un des meilleurs terrains d'aviation du sud-est asiatique.
Hubert de Seguin-Pazzi, à l'époque colonel à Dien Bien Phu.
Certains pensaient que nous avions là une position qui était bonne, que nous pouvions nous y défendre, puisque c'était une position défensive, que les forces du Viet Minh n'étaient pas aussi importantes qu'elles l'étaient, que nous avons su après qu'elles étaient, et il y avait un sentiment de confiance qui régnait.
Ainsi, au moment où le Viet Minh désire employer ses grandes unités, la forteresse de Dien Bien Phu s'impose comme un obstacle difficile, puissamment défendu, aux liaisons assurées. Sur toute la région pèsera la menace de son intervention. Elle permettra aux jeunes troupes nationales vietnamiennes de montrer leur valeur, comme à Tho Truong et à Bac Lieu.
Marcel Bijard, quand vous avez été parachuté sur Dien Bien Phu en 1953, vous pensiez à ce qui allait s'y produire quelques mois plus tard. Et est-ce que, à votre avis, c'était une bonne idée, cette cuvette?
Moi, d'abord, je suis parachuté, donc il faut prendre Dien Bien Phu. C'est la mission para qui me plaît, quoi. Bon, hein, c'est ça, le parachutiste. Et puis alors, quand je suis arrivé là-bas, et que j'ai vu que les ordres étaient donc de tenir Dien Bien Phu pour empêcher une infiltration au Laos... Alors moi, spécialiste de la haute région, ce n'est pas parce qu'on tient un pont, on passe partout sur des pistes impossibles. Alors je savais que ça, c'était une vue de l'esprit par des gens, des généraux qui n'avaient aucune idée de cette guerre révolutionnaire et de ce qu'est la haute région tokinoise où on peut passer partout. Donc c'était, si vous voulez, une vue de l'esprit. Maintenant, ceci étant, on ne pensait pas quand même, quand ils ont fait Dien Bien Phu, que Giap serait capable de ramener presque tout son corps de bataille autour de Dien Bien Phu. Et presque à juste titre, les aviateurs ont dit on bombardera la route coloniale 41. Donc ils ne pourront pas envoyer le ravitaillement. Comment feront-ils pour se ravitailler, etc. On ne pensait pas qu'ils auraient de l'artillerie.
Brigitte Friang, en tant que journaliste, vous avez été à Dien Bien Phu en janvier 1954. Quel était l'état d'esprit des officiers du camp retranché?
Je me souviens par exemple de ce pauvre colonel Pirot, là sur place à Dien Bien Phu. Ça s'est passé au mois de janvier, si vous voulez. Plusieurs personnes, dont moi, toujours, on me pardonnait beaucoup de choses parce que tout le monde me connaissait bien, j'étais une femme. Alors je lui avais dit, écoutez, mon cher colonel, tout de même, les Viettes sont sur les collines, ils vont nous tirer dessus en tir tendu. Ou en tir plongeant. Comment m'avait-il dit, ma pauvre petite Brigitte, si j'étais votre père, je vous flanquerais une fessée. Les Viettes ne pourront jamais tirer en tir tendu et en tir plongeant. Voyons quoi, c'est ce qu'ils ont fait, et nos canons ont été neutralisés.
Si la position de Dien Bien Phu inspire confiance, c'est que quelques jours après l'opération Castor, les Français en ont fait une véritable forteresse. Au centre, le poumon du camp retranché, l'aérodrome qui assure la liaison avec Hanoï. Il est protégé par 9 centres de résistance installés sur des collines. Les Français leur ont donné des noms de femmes. Au nord, Béatrice, Anne-Marie, Gabrielle. Au centre, autour de la piste, Claudine, Dominique, Eliane, Françoise et Huguette. Enfin, à 5 km au sud, le centre de résistance Isabelle. Chacun d'eux est tenu par plusieurs points d'appui et défendu par l'artillerie du colonel Pirot. Il est convaincu de pouvoir décimer les divisions de Giap si elles osent attaquer. Bien sûr, quelques rabat-joies font remarquer que Dien Bien Phu est au fond d'une cuvette, entouré de montagnes de 700 mètres. Qu'avec de l'artillerie, Giap peut détruire les points d'appui et l'aérodrome. Mais le colonel de Castres, qui commande le camp, est convaincu que les soldats de Giap, les Bodoy, ne pourront jamais hisser de canons lourds sur les montagnes. Comment pourrait-il même les amener à Dien Bien Phu, à 300 km de leur base, sous le feu de l'aviation française? C'est pourtant ce qu'ont décidé de faire Ho Chi Minh et Giap. En cette fin d'année 53, ils savent que la France est prête à négocier une solution honorable. En janvier à Berlin, et plus tard à Genève, deux conférences internationales doivent discuter du sort de l'Indochine. Il faut être en position de force. Alors, ils envoient sur Dien Bien Phu presque toutes les divisions Viet Minh. Construisent dans la jungle une route sur laquelle 75 000 coulis, 20 000 bicyclettes et 600 camions Molotova prêtés par les Chinois transportent nuit et jour des tonnes de riz, de munitions et 40 canons qui sont hissés à main d'homme sur les crêtes qui dominent Dien Bien Phu. L'attaque est prévue le 25 janvier 1954, le jour même de la conférence de Berlin. Par une offensive éclair, Giap pense pouvoir prendre Dien Bien Phu en quelques heures. Brigitte Friand.
Quand on nous a téléphoné vers 6 heures du soir, vous savez, avec le téléphone de campagne, ça y est, ils attaquent ce soir, vous n'imaginez pas la joie que nous avons eue. Ils attaquent, enfin on va se battre et enfin on va les battre. C'est inouï quand on y pense, et ça, donc, Dien Bien Phu est tombé le 7 mai 1954, et là, je vous parle du 22 ou du 23 janvier. Et vous savez qu'apparemment, on n'a pas encore tous les documents, mais il est fort probable que, effectivement, les Viet ont failli attaquer ce soir-là, et que Giap y a renoncé sur ordre de Moscou. Car vous savez, quand on fait de Giap un énorme, un chef de guerre fantastique, moi je crois qu'il a su exploiter surtout la bêtise, l'infatuation des Français.
Je souhaite le choc à Dien Bien Phu. Certes, l'artillerie Viet Minh pourra nous gêner un temps, mais nous la réduirons au silence. Comme il ne peut aller en force au Laos, dans la crainte de voir surgir un obstacle derrière lui, Giap se trouve contraint d'attaquer. Je ferai tout pour lui faire mordre la poussière et lui passer l'envie de s'aventurer dans la grande stratégie. Général Cogny.
C'est Giap qui a donné l'ordre d'arrêter l'offensive.
Colonel Bui Tin, major de l'armée Viet Minh.
La première tactique à choisir, c'est une offensive éclair. Ça va être seulement deux jours et deux nuits, ou bien trois jours et trois nuits. Un déferlement. Mais après, Giap a été réfléchi mûrement toute une nuit. Il a dit que si on donne l'attaque éclair, c'est foutu, puisque les Français ont été bien préparés.
Si nous avons adopté le plan initial,
général Von Guinjiap,
qui était proposé par notre état-major de concert avec certains spécialistes chinois, ils étaient d'accord. Quand j'étais arrivé là, il présentait un plan d'attaque rapide. En quelques jours, n'est-ce pas? En deux jours et trois nuits, n'est-ce pas? Je vois que ça ne marchait pas. Alors, j'ai décidé, n'est-ce pas, de retirer les troupes. Et j'ai lancé, n'est-ce pas, la division 308 vers lui en Brabant pour que l'ennemi, n'est-ce pas, soit désorienté, n'est-ce pas.
Avant de quitter Dien Bien Phu,
colonel Lê Kim, de la division 308.
Il y a 15 soldats vietnamiens qui disent « Le Vietnam n'est pas encore indépendant. Pourquoi aller à Laos? Qu'allons-nous faire au Laos tandis que notre pays, le Vietnam, n'est pas encore indépendant ?» L'autre a répondu, où se trouve l'adversaire? Là, nous allons l'attaquer. Cette phrase devient un mot d'ordre pour nous. Et le musicien Do Nguyen, il a inspiré de cette idée pour faire une chanson. Do Kwasak, l'attaque dit, où se trouve l'adversaire? Nous y serons. C'est une chanson qui anime notre force.
En envoyant la division 308 au Laos, vers Luang Prabang, Giap fait diversion. Il ne fait que reporter l'attaque sur Dien Bien Phu. Il n'y a pas renoncé. Mais il faut aller vite. Attaquer avant la saison des pluies, qui rend le terrain impraticable, et avant la conférence de Genève, où l'on doit parler de l'Indochine début mai. En mars, Giap rappelle la division 308. Autour de Dien Bien Phu, elle rejoint les divisions 304, 312, 316 et la division d'artillerie 351, dont les canons sont pointés sur le camp retranché et dissimulés dans des abris creusés à flanc de montagne. Le 13 mars 1954, à quelques heures de l'attaque, les 10 000 hommes du colonel de Castres ont en face de 40 canons et 50 000 hommes. Ce dont ne se doute pas le ministre français de la guerre qui vient de visiter Dien Bien Phu.
Nous sommes actuellement dans l'aérogare d'Orly et dans un instant, le président René Pleven va venir devant ce micro nous donner ses impressions de voyage et surtout l'enseignement qu'il a tiré de son séjour en Indochine.
Militairement, il est incontestable que l'adversaire n'a pu jusqu'ici atteindre aucun de ses objectifs essentiels. Dien Bien Phu n'a toujours pas été attaqué, il peut encore l'être. Mais notre commandant en chef, le général Navarre, dont l'esprit de décision et le sang-froid en imposent à tous, a pleine confiance que cette campagne d'hiver se terminera sans résultat positif pour l'adversaire, malgré les efforts acharnés qu'il aura déployés.
On ne bougeait pas, on attendait les Viet.
Jean Pouget, aide de camp du général Navarre.
En réalité, je pense que les Viet n'ont jamais attaqué, parce que c'était quand même un gros morceau, Dien Bien Phu. C'était vraiment un très gros morceau. Ils n'auraient jamais attaqué. S'il n'y avait pas eu cette décision, après la conférence de Berlin, de dire on va se réunir à Genève pour régler les problèmes d'Extrême-Orient.
Entre de mobilisation à tous les cadres et combattants, à toutes les unités, aux différentes armes, pour déclencher l'offensive générale contre le camp retranché de Dien Bien Phu. Cadres et combattants, la campagne de Dien Bien Phu va s'ouvrir. Ce sera la plus grande offensive contre des positions fortifiées dans les annales de notre armée. Aujourd'hui, c'est le moment de relancer nos forces contre Dien Bien Phu. J'appelle tous les cadres et combattants, toutes les unités, toutes les armes opérant sur le front de Dien Bien Phu à bien comprendre l'honneur qui vous échoit de participer à cette campagne historique, à anéantir totalement les forces ennemies à Dien Bien Phu, à arracher une victoire retentissante dans cette campagne. L'heure du combat a sonné. Le commandant en chef de l'armée populaire du Vietnam, général Võ Nguyên Giáp.
Je me souviens très bien du déclenchement de l'offensive, d'ailleurs parce que l'un des nôtres, qui était un homme très important dans l'affaire, qui était le colonel Gaucher, a été tué par un des premiers obus. Et parce que surtout, nous avons ressenti à ce moment-là ce que nous n'imaginions pas suffisamment, c'était la valeur de l'artillerie. Nous avons compris que le Viet Minh avait une artillerie déjà importante et que, étant donné ses positions dominantes sur les hauteurs et la façon dont il pouvait se servir de cette artillerie parce qu'il était à une distance de tir, des objectifs qu'il voyait parfaitement, nous avons compris que là, quelque chose était changé.
Seul, les gueules de canon sortaient des flancs des montagnes.
Nguyen Dinh Thi.
Et après chaque salve, les canons étaient retirés dans les casemates creusées au flanc des montagnes. Et c'est pourquoi ces casemates étaient évidemment repérées dès l'ouverture de la bataille. Mais la réponse, la contre-attaque par l'artillerie de Dien Bien Phu était devenue inefficace parce qu'après chaque salve, nos canons étaient ramenés dans les profondeurs des tunnels.
Pierrot avait dit, de toute façon, avec nos canons,
Marcel Bijard,
la qualité de nos officiers, tout ça, avec notre contre-batterie, nos 155, s'ils amènent des canons, on les détruira tout de suite. Ils ne pensaient pas qu'ils montraient des canons sur la montagne, qui feraient des abris, qui, avec des créneaux qui tiraient directement à vue, protégés par des rondins, et ayant tiré, se repliant le canon tout de suite. Donc, on n'a jamais touché un canon Viet Minh. Donc, ça a été la surprise la plus totale.
Et je savais plus ou moins qu'ils allaient attaquer le 14, enfin je pensais qu'ils attaqueraient le 14 mars. Alors j'avais retenu une place dans un avion de ravitaillement pour le 14 mars au matin, et ils ont attaqué le 13 au soir. Mais vous savez, enfin moi je me souviens d'un commandant, un commandant de Vries, pour ne pas le nommer, qui s'occupait de la presse, disant, mais comment, mais ma chère, comment voulez-vous que Giap gagne? Il n'a pas fait l'école de guerre. Non, mais il faut entendre des choses pareilles.
Jean Pouget, la bataille commence le 13 mars, Giap lance son offensive. Quel est l'état d'esprit à Hanoï? Est-ce que cette confiance que vous avez pu observer fin 1953, elle disparaît, je suppose?
Elle s'effondre. C'est extraordinaire. C'est que plus personne à Hanoï n'a jugé qu'on pouvait résister à Dien Bien Phu. C'est même très étonnant de voir ça. C'est l'effondrement complet. Depuis le général Cogny qui reçoit les journalistes tous les matins en leur disant « Je l'avais bien dit, il fallait pas y aller, c'est foutu ». Jusqu'au dernier des parachutistes, il se dit, merde, tu pourrais sauter dans ce merdier, comme ils disent, c'est pas drôle. Ils y sont quand même allés.
Le 13 mars 1954, à 17h, la plus grande bataille de la guerre d'Indochine a commencé. Ne parvenant pas à localiser et à neutraliser les canons Viet Minh, le colonel Pirot se suicide le lendemain de l'attaque. En 4 jours, écrasé par l'artillerie, 3 centres de résistance tombent, Béatrice, Gabriel et Anne-Marie. Les soldats de Giap sont à 1 kilomètre de l'aérodrome. Le colonel Langlais, qui commande les opérations, demande des renforts. On lui envoie celui que tout le monde en Indochine surnomme Bruno, le commandant Bijard, qui avait pris Dien Bien Phu en novembre. Le 16 mars, avec son 6e BPC, il saute une deuxième fois sur le camp retranché, malgré une blessure à la cheville. Marcel Bijard.
Donc on saute à Isabelle, dans le poste commandé par Lalande, qui est au sud. C'est le poste tout à fait au sud, à 5-6 kilomètres, autant que je me rappelle, de Dien Bien Phu. Je saute à Isabelle, et les obus arrivent. Je vois encore la chaleur, une chaleur, un ciel très clair, et des obus explosants, là. J'ai un type qui a un bras arraché, d'autres blessés. Et puis alors, moi, je demande une jeep à Lalande, avec ma patte, pour aller sur Dien Bien. Alors bon, je progresse à hauteur de mes gars, mais je fais des zigzags pour éviter de prendre un obus. Et puis on arrive, après bien des difficultés, à Dien Bien Phu. Où je vois personne là-dedans. Alors, quand même un type ou LPC, alors je me dirige vers le PC de Castries, là. Alors tout le monde est dans les abris, au fond des abris, et je tombe sur un colonel. Là, on m'avait dit qu'il n'avait pas un moral extraordinaire, et je sais qu'il faisait pipi dans son casque. Hein. Alors je dis, mon colonel, vous devriez quand même faire un peu de sport, monter au-dessus, aller à Lille, sous les obus, ça fait le plus grand bien. Vous voyez le cinéma. Alors on m'envoie sur Eliane 4 avec mon bataillon, un piton où il n'y a rien, pour faire nos trous nous-mêmes, sous les obus. Moi je fais vite un trou, mes hommes aussi, et on se retrouve sur le piton d'Eliane 4, qui est tenu côté Viet Minh par le commandant Botella, un type formidable, un bon copain, qui a un bataillon de Vietnamiens, lui. Alors il vient me voir, Botella, il m'amène une soupe chaude, et il me dit, Bruno, tu vas voir, c'est un beau bordel. J'ai dit, oui, on m'a prévenu.
Le monde entier a les yeux fixés sur Dien Bien Phu, où se joue peut-être le sort de la guerre d'Indochine.
Il y a bientôt 15 jours, Giap lançait ses divisions à l'assaut. Les bataillons rebelles attaquaient avec un fanatisme extraordinaire, sans souci de leurs pertes. Les franco-vietnamiens opposaient une résistance magnifique.
Marcel Bijard, est-ce que vous avez eu peur à Dien Bien Phu ?
Non, parce que j'avais l'impression de voir un film. Et puis, vous savez, quand on commande, c'est tellement facile de ne pas avoir peur. Vous êtes responsable de la vie des autres. Donc, vous ne pensez pas à vous. Vous êtes pris par l'opération. Vous êtes pris, est-ce que je joue bien ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que mes appuis sont en place ? Attention. Donc, vous êtes tellement pris que vous n'avez pas le temps. Vous vivez pour ce qui se passe. Vous vivez dans l'action. Non, non, moi, je crois que... Et puis, je savais que je serais blessé, qu'il se passerait des choses, mais que je m'en sortirais, quoi.
Depuis la chute des premiers points d'appui, l'aérodrome est sous le feu des canons Viet Minh. Pourtant, pendant les 15 premiers jours, malgré la DCA, les pilotes de Dakota continuent, de nuit, à faire la navette entre Hanoï et Dien Bien Phu pour évacuer les premiers blessés. Jusqu'au 28 mars, date à laquelle se pose le dernier avion. À son bord, une convoyeuse, la seule femme de Dien Bien Phu, Geneviève de Gallard.
Nous avons décollé vers 5h et quelques d'Hanoï, et quand nous nous sommes posés, la nuit était très très sombre, la piste était mouillée, la visibilité était mauvaise, et par deux fois le pilote a essayé de se mettre dans l'axe de la piste, et par deux fois il a eu l'impression qu'il n'était pas exactement dans l'axe, il a remis la gomme, et à la troisième tentative, il a vraiment eu une volonté de se poser. Malheureusement, Il est légèrement sorti de la piste et il a heurté un piquet de barbelés qui a perforé le réservoir d'huile. Et nous avions déjà chargé les blessés quand le mécano, qui, ayant senti le choc, avait fait le tour de l'avion pour vérifier s'il n'y avait pas des dégâts importants, est revenu. Il nous a dit... Le réservoir d'huile a été touché, la pression d'huile est à zéro, il est impossible de repartir. On avait demandé un réservoir pour pouvoir réparer, et malheureusement, étant donné que l'heure tardive de notre posée, l'avion a été détruit par l'artillerie quand la brume s'est dissipée, quand ils se sont aperçus qu'il y avait un Dakota qui était là et qui n'était pas là la veille, l'artillerie est entrée en action et on a vu notre pauvre avion partir en flammes et en fumée, et ça a été... une impression assez triste. Là, vraiment, je me suis trouvé plongé immédiatement dans une atmosphère de guerre.
C'est pas le dernier avion qui s'est posé à Dien Bien Phu ?
Alors, c'est le dernier. C'est le dernier.
La présence de cette femme n'a été que bonne en toute chose, car tout le monde ne pouvait pas la voir.
Hubert de Pazzi.
Mais elle était vraiment d'abord parce que son moral était remarquable. Parce que son activité était remarquable et parce qu'elle voyait tout de même beaucoup de monde, et bien c'était merveilleux pour tout le monde de penser qu'une femme partageait notre sort.
Je sentais qu'après avoir partagé ces moments avec les blessés, eh bien je ne me sentais plus le droit de partir. J'aurais eu l'impression d'une lâcheté, et puis je m'étais rendu compte quand même que la présence d'une femme leur apportait beaucoup. J'en avais assisté un certain nombre dans leurs derniers moments où... Il y avait un jeune lieutenant qui me disait « Geneviève, promettez-moi que je ne vais pas mourir ». Et je savais que la paralysie gagnait de minute en minute. Il avait une section de la moelle épinière et à la fin, il ne pouvait plus avaler et puis plus respirer. Mais le drame, ça a été de ne pas pouvoir faire face à toutes les demandes. Et pour le docteur Grosvin, ces décisions qui lui incombaient ont été dramatiques.
Grosvin, il y a des photos qu'on a vues, et j'ai encore dans mes yeux, là, son tablier blanc, un truc blanc sur la tête, torse nu, là, avec les très, très, très poilu, très solide, sciant, coupant, remontant le moral toute la journée, sans arrêt. C'est un type qui a fait un travail formidable, qu'amputé, qui a sauvé des vies humaines. Moi, mon truc dans le mollet qui me faisait mal, il m'a fait une piqûre dans la fémorale, là, qui m'a soulagé tout de suite. Ça a été un type sensationnel, respecté, aimé par tout le monde, Grosvin.
Cette infirmerie, ça devait être un peu...
Oh là, ça sentait mauvais, les asticots sur les plaies, c'était quelque chose d'affreux. Où nous, combattants, on n'avait pas le temps d'y aller, ou très peu, hein, parce que c'est fallait être constamment au combat, et valait mieux pas. Vaut mieux pas.
On avait tout fait pour maintenir dans la salle d'opération des conditions d'hygiène. Elle était tapissée de draps blancs, et par contre, dans certaines chambres, il y avait des blessés qui étaient couchés à même le sol sur des parachutes en guise de matelas. On avait même creusé à même la terre des espèces de niches pour gagner de la place et pouvoir installer plus de blessés. Et là, il n'y avait pas d'électricité dans ce couloir et ça donnait vraiment une impression de catacombe excessivement lugubre.
Écrasé par des milliers d'obus, les 60 000 combattants français et vietnamiens qui s'affrontent à Dinh Bien Phu passent le plus clair de leur temps sous la terre. Les deux premières offensives Viet Minh du 13 et du 30 mars ont coûté si cher à Giap qu'il a fait construire un extraordinaire réseau de tranchées. Ces combattants qui manient la pelle de 14 à 18 heures par jour tissent autour du camp retranché une toile d'araignée de 350 km de long. Centimètre par centimètre, ils s'approchent des derniers centres de résistance français. Colonel Buitin.
La nouvelle tactique, c'est petit à petit. C'est l'engouement avec la pelle, le creusement des tranchées pour petit à petit. Et on approche, on encercle et aussi on donne la rupture entre les zones différentes. Et après seulement, c'est l'offensive générale.
Notre arme la plus efficace, je pense que ce ne sont pas les canons, mais c'est la pelle, la pioche. Parce que Dinh Bien Phu, c'est une plaine très très fertile. Et nous devons creuser des tranchées pour approcher au camp adverse. Dans ma vie, j'ai creusé beaucoup, beaucoup de tranchées. Mais je trouve qu'à Dinh Bien Phu, le sol est très très fertile. C'est pourquoi c'est facile de manier la pelle et la pioche pour se construire des tranchées. Premièrement, nous nous allongeons à bas ventre contre la terre et nous construisons nos tranchées comme ça, nous creusons comme ça. Dès que le fossé est déjà assez profond, nous nous accroupions et puis nous continuons. Et puis, debout. Et puis, de ces deux murailles qu'on appelle murailles parce que le fossé est déjà profond, nous construisons des abris que nous appelons les gueules du crapaud. Chaque abri peut abriter 3 personnes. Et puis, la question de l'hygiène. Parce que la bataille dure. Excusez-moi, nous devons faire des. Nous appelons ça les trous des chats. Ils ratent la terre. Pour... Et puis, nous recouvrons cette terre-là.
La victoire de Dinh Bien Phu, d'après moi, d'après mon opinion personnelle, c'était dû à l'habitude millénaire des Vietnamiens, de creuser la terre. Vous avez vu nos digues, les digues du fleuve Rouge. Nous sommes un peuple de terrassiers depuis plusieurs siècles. Et nous avons construit seulement, nous avons creusé la terre, bâti ces digues à main d'homme pour maîtriser le fleuve Rouge et le fleuve du Nord. On travaille de termites et à Dinh Bien Phu, on a creusé la terre, creuser les flancs des montagnes et ensuite creuser ce réseau, vous savez, de tranchées, là. Des centaines et des centaines de kilomètres de tranchées reliées les unes aux autres et avec des souterrains pour chaque section, pour chaque compagnie et pour pouvoir vivre là des mois et des mois.
Ils étaient environ, d'après l'effectif, 70 000 Viet Thu Dinh Bien Phu. Pas tous des combattants. La majorité, c'était des travailleurs. C'était ceux qui creusaient les tranchées. Ils ont fait un réseau de tranchées qui était, je crois avoir lu ça quelque part, aussi grand que les égouts de Paris. et on voyait ces tranchées arriver, passer sous les barbelés, et on pouvait les tuer, il y en avait toujours qui arrivaient derrière.
Le ravitaillement partait en moitié chez les Viettes, ce qu'on nous parachutait partait en moitié chez les Viettes, et puis les pertes qu'on a eues quand même, bataillon de Légion, bataillon Thaï, bataillon d'Algériens, tout ça, on sentait. On avait fait le point avec l'Anglais, vraiment les hommes sur qui on pouvait compter, je crois que un mois avant la chute, on était arrivé à 2400 hommes, quoi. Les légionnaires qui restaient, les paras, enfin des types sûrs, 2400 types capables de se battre face à tout le corps de bataille Viet Minh, quoi. Moi, je crois que d'un autre côté, si on avait eu, si vous voulez, au lieu d'avoir 12 000 hommes, oui, avec des Algériens, des Marocains, comptez bien, mais enfin, des Thaïs, il y avait tout là-dedans. S'il y avait eu, par exemple, uniquement du para, la légende, truc comme ça, je pense que ça aurait pu... Parce que vous savez que Diop, par un moment, 15 jours avant la fin, il en avait marre aussi. Hein. Il avait eu tellement de pertes, il disait, comment ça va se terminer, cette affaire-là, hein. Et au dernier moment, politiquement, il a tout ce qui lui restait, il a mis le paquet pour en finir.
Pour en finir avant les premières pluies, Giap fait venir 25 000 hommes en renfort. Il racle les fonds de tiroir. Il n'est pas le seul. Jusqu'au dernier jour, De Castres, qui vient d'être nommé général, va lui aussi recevoir des renforts. Des volontaires comme l'aide de camp du général Navarre, le capitaine Pouget, qui le 2 mai, le lendemain de la dernière offensive de Giap, apprend que sa compagnie va sauter sur le camp retranché. Avant de partir, il déjeune avec le général Baudet au mess de l'état-major à Hanoï. Jean Pouget.
Je savais que j'allais sauter dans la nuit. Et il y avait du poulet à sauce blanche avec du riz à manger. Et ça passait pas. Mais vraiment, ça passait pas, ce poulet. Depuis, je peux plus le voir, d'ailleurs. Et à la fin, Baudet m'a dit, « Oh, écoutez, je m'excuse, il faut que je m'en aille tout de suite chercher Général Navarre. Mais je vous verrai ce soir, venez dîner ce soir, puisque vous êtes en permission. » Ah, j'ai dit, « Non, mon général, ce soir, je dîne à Dien Bien Phu. » Et j'ai vu le père Baudet se retourner, pâlir. Il dit, mais c'est fou. Mais vous n'allez pas à la Dien Bien Phu. Mais c'est fini.
Nous avons reçu des volontaires jusqu'à la fin ou à peu près.
Hubert de Pazzi.
Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que certains d'entre eux n'avaient pas de brevet de parachute. Et que c'était remarquable de leur part. Mais il y a eu des gens remarquables qui sont venus de Paris pour ça. Et puis il y a eu un garçon particulièrement remarquable, c'était Pouget, car Pouget est arrivé à la fin. Pouget était l'aide de camp du général Navarre. Pouget était parachutiste, mais quand il a vu que cette opération qui avait été préparée par le commandant en chef aboutissait à ça, il s'est fait parachuter chez Dien Bien Phu. Pas mal.
Quand j'aurais dit ce soir on saute, si on nous envoie là-bas, c'est que c'est pas perdu, il y a quelque chose à faire. Et j'ai rompé vos rangs. Et ils sont mis autour de moi en disant, écoutez, mon capitaine, c'est pas à peine de nous faire du baratin, on sait que c'est foutu. Mais croyez-moi, on va y aller, et puis on va leur faire voir ce que c'est que les parachutistes français. Mais vraiment pour l'honneur. À vous tirer les larmes aux yeux, ces gars. C'était des gosses de 19-20 ans qui vous disaient ça. Ils étaient parfaitement conscients que c'était fichu au moment où...
Le jour où vous avez reçu l'ordre d'aller sauter, Jean Pouget, je crois que pour la première fois, vos effectifs étaient totalement au complet. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'est défilé, il y en a même qui venaient...
Qui étaient évadés de prison pour venir. C'était extraordinaire. D'habitude, oui, j'avais 100 ou 110 types sur les rangs. Et là, brusquement, j'ai 119 types qui se sont présentés, prêts à sauter. Alors que c'était un dimanche, que le matin, ils étaient tous partis en permission pour la journée. Qu'il avait fallu faire les bistrots, les bordels, et pour les rassembler, leur dire attention, rentrez vite, vous préparez. Et à 5 heures de l'après-midi, j'avais sur les rangs 119 types prêts à sauter. Moi, j'avais pris la première place dans le premier avion. Parce que je connaissais un peu ce qui se passait là-bas, c'est que quelquefois, les aviateurs donnaient l'ordre un peu trop tôt de sauter, et les premiers qui sautaient, ils se retrouvaient chez les Viettes directement. Et il y avait à l'entrée de la DZ une croix qui était fabriquée avec des boîtes remplies de sable et d'essence, une croix lumineuse. Et il ne fallait surtout pas sauter avant la croix, parce que là, on tombait directement chez les Viettes. Il y avait juste quelques barbelés qui nous séparaient. Donc je m'étais mis là pour bien. Et il fallait sauter très vite, pour pas que le dernier, lui, tombe aussi chez les Viettes. On avait juste le temps. Et il fallait que l'aviateur, que le pilote, descende assez bas pour qu'on ne soit pas tiré pendant le temps que, si on descendait de 600 mètres d'altitude, comme ça c'est arrivé, on était tiré par tout le monde en bas. Moi, je croyais bien d'abord que mon parachute était en lambeaux. Je regardais le ciel à travers les trous. On voyait les balles traceuses qui montaient. Et en bas, on voyait d'énormes fleurs rouges. C'était les explosions des obus qui vous attendaient à l'arrivée. Alors, vous voyez l'ambiance.
La nuit était claire, il faisait beau. Et on assistait donc à ce parachutage et on voyait ces coupoles blanches qui tombaient dans le ciel et ça avait un effet... Enfin, c'était très beau, c'était presque féerique. Et un jeune soldat est tombé à côté de moi et « Ah tiens, une femme ici », a-t-il dit. Et j'ai eu l'impression qu'il se disait « Eh bien, c'est peut-être pas aussi terrible qu'on nous le disait à Hanoï et que ça avait peut-être aidé à remonter son moral. »
Quand le général de Castres m'a vu, il m'a dit « Tiens, toi aussi, t'arrives ?»« Hein ? Mais mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Et puis il m'a dit « Ah, j'ai donné les lettres. » Il m'a dit « Tu as vu le patron ?» J'ai dit « Non, j'ai pas vu. » Il était à Hanoï. Il m'a dit « Mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous ?» Et il y avait un poste radio qui retransmettait la bataille qui se passait à moins d'un kilomètre sur une huguette, qui allait tomber d'ailleurs, et qui est tombée pendant qu'on parlait. On a entendu le lieutenant qui a poussé un cri. Au moment où il disait, ils arrivent, ils sont là, ils... Ah ! C'est terminé. Et Kat s'est arrêté de parler, mais tu vois, comme une peau de chagrin, ça se rétrécit.
Pouget est envoyé sur Eliane 2, un des derniers points d'appui qui tiennent encore, mais il tombe dans la nuit du 6 au 7 mai 54. Les Bodoï de Giap sont alors à quelques mètres du PC du général de Castres. Geneviève de Galard.
C'est vraiment cette nuit du 6 au 7 qui devait être décisive. Et quand nous avons su le 7 au matin que les Viet étaient à 25-30 mètres, là... et que la sortie était abandonnée pour des raisons que l'on comprendra, nous savions que c'était le dernier jour.
Ça a été quelque chose de formidable. Ça a été une ruche, une fourmilière qui nous encerclait, qui venait. Vous faites une descente, vous en tuez deux, puis on en a tué chez nous. Alors, à force d'avoir des pertes, finalement, on n'a plus les moyens de surveiller tout ça. Donc, si vous voulez, ils étaient tellement là, comme des fourmis tout autour de nous.
Et puis, ce sont les fines barbelées. Nous trouvons qu'il faut construire un tunnel au-dessous de l'île de Bapalé qui s'enfonce jusqu'au cœur du poste. Et lorsque nous avons déjà construit ce tunnel jusqu'au cœur du poste, nous soulevons la terre et puis de cette cachée souterraine, nous sautons pour attaquer l'adverse en pleine nuit.
C'est la fin, là. C'est la fin où tout s'écroule, il n'y a plus de munitions, tout le monde est crevé. Et puis à l'oreille, on des bataillons, voilà, les types, c'était 80, l'autre il y avait 60, complètement crevé, tout ça. C'était vraiment le carnage. Quoi. Puis alors de l'autre côté, plus de munitions. Alors là, De Castres qui commandait téléphone à Hanoï, Hanoï qui dit bon, bah, cessez les combats, pas de drapeau blanc, et voyez, donc c'était fin de journée, je vois encore les Bodoï, les Viet arrivés là de partout, ça descend sur les pitons, et un triste souvenir, je suis dans l'abri avec l'anglais, avec Geneviève de Galard et d'autres officiers, et puis alors les gars déboulent, là, les gars arrivent, alors moi j'ai battu du para, mon béret rouge, quoi, et puis voilà.
Je vous donne un accord.
Je
pars tenir ici le plus longtemps possible, avec ce qui restera, mon général.
Oui, d'accord, mon vieux.
Voilà.
Il faut pas de munitions. Il y a des choses à récupérer.
C'est plus grave,
mais longtemps. Il n'y a pas des choses.
J'ai dit encore quelques munitions de 105, mais vous remettez que je ne sers à rien ici.
Il y a eu un coup de téléphone avec Conny, et le général de Castres lui a dit « Je crois que maintenant nous sommes complètement encerclés, nous n'avons plus même assez de munitions. » Et nous pensons que nous arrivons à la fin, et le général Cogny lui a dit « Ne levez pas drapeau blanc, ce que nous n'avons pas fait. » Et à un moment donné, simplement, on a dit, à telle heure, nous cesserons le feu. Et les Bodaï ont sauté dans nos tranchées. C'est tout.
Nous sommes à Bac Ninh, à 30 km au nord de Hanoï, dans la maison d'un des soldats, un des Bodaï, les plus célèbres du Vietnam, le soldat Vinh, qui, en 1954, avait 19 ans et était sous-chef de section dans la division 312. Et c'est lui qui, le 7 mai à 17h, est entré le premier dans le poste du commandement, dans le PC du général De Castres.
Khi vào được giao thông hào rồi, vào được trung tâm rồi, thì chúng tôi thành chia thành từng tổ, đánh theo kiểu chia cắt.
Lorsque nous sommes arrivés dans le centre, dans les boyaux de communication du centre, nous avons distribué des troupes pour attaquer tous les points.
Thế nhưng mà để vào được hầm tướng Đờ Cát thì chúng tôi còn phải qua một cái vòng vây xe tăng.
Pour pouvoir entrer dans la PC du général Đờ Cát, il nous faut franchir un cercle de blindés.
Nhưng thấy có một cái mô đất cao và có bốn cái xe tăng cứ chạy xung quanh.
Mais nous avons trouvé une petite colline de terre où il y a quatre tanks qui se placent autour de cette pêche.
Thế tổ của tôi là chúng tôi bắt một người lính ngụy.
Et notre groupe a arrêté un fantoche, un Vietnamien.
Hỏi nó là bảo mày nói ngay chỗ cái mô đất cao và có bốn chiếc xe tăng chạy là cái chỗ gì đấy.
Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. La pêche est là avec quatre tanks qui sont à l'entour.
Nó bảo thưa các anh đấy là hầm của chỉ huy sở của tướng De Castri.
Il a répondu que c'est la pêche du commandement du général De Castri.
Thế vì thế là tổ của chúng tôi là vào được tiến sát vào hầm tướng De Castri rồi.
Et donc notre groupe s'approche de la pêche du général De Castri.
Lúc đầu thì có ba người.
Au début, il y a seulement trois personnes.
Tôi với một đồng chí nữa là vít một cửa.
Moi avec un autre camarade qui sont sur một une porte.
Còn một chiến sĩ nữa vít một cửa.
Et un autre qui est sur une autre porte.
Và lúc ấy thì đồng chí Tạ Quốc Luật và tôi cùng với chiến sĩ nhỏ chính thức vào hầm.
Et à ce moment-là, Monsieur Tạ Quốc Luật, chef de la compagnie, moi et une autre personne, nous sommes entrés dans la pêche du général De Castri.
Gần 30 sĩ quan Pháp đều đứng dậy.
Près de 30 officiers français sont debout.
Tướng De Castri đã hàng rồi.
Le général De Castri se rend.
Chưa bao giờ tôi thấy sung sướng như lúc đó.
Jamais je me sentais heureux comme à ce moment-là.
Que voulez-vous qu'on éprouve en pareil cas, sinon un immense échec? Un immense échec. On revoit tout en arrière et on se dit l'échec, c'est un échec de toutes nos conceptions, c'est un échec de tout ce que nous pensions. Et comme soi-même, on ne peut pas se mettre en dehors du coup en disant c'est les autres, eh bien on se dit je suis fautif pour ma part de cet échec, c'est forcé, autrement on serait un irresponsable, comme on dit aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous avez éprouvé, colonel Le Kim, quand vous avez appris la chute du PC du général De Castres?
Oh, c'est une grande joie. C'est une grande joie. C'est une grande fête. À 5h du soir, les jours auparavant, il pleut, mais c'est bizarre. Cet après-midi-là, il ne pleut pas. Et puis, le soleil jette des rayons jaunes avec le feuillage vert. C'était peut-être Notre esprit, notre cœur, pendant ce temps-là, nous étions très vieux. Nous trouvons que notre alentour, c'est splendide. Et puis, de tous les procès, les Algériens, les majors, les Marocains, les Français, les légionnaires arrivent. Fini la guerre, fini la guerre. Nous nous embrassons. Vraiment, nous nous embrassons. Entre les prisonniers de guerre et ceux qui gagnent la bataille, c'est fini la guerre.
C'est là où on a découvert les Viet. Pour moi, en tous les cas. Là, je suis entré dans un autre monde. J'ai quitté le monde judéo-chrétien ou gréco-latin pour entrer dans un autre monde, un monde de fourmis rouges. Tout le monde pense la même chose, tout le monde... C'est une impression difficile à décrire. Mais je n'avais aucune appréhension, de toute façon. Vraiment, je me sentais... Je dévorais de curiosité vis-à-vis de ces gens-là. D'où viennent-ils? C'était vraiment une autre planète. Des extraterrestres.
Communiqué du haut commandement de l'armée populaire du Vietnam. Notre armée a remporté une victoire complète sur le front de Dien Bien Phu. Victoire sans précédent dans les annales de l'armée populaire du Vietnam. Le 7 mai, à 22h, nous avons anéanti la totalité des forces ennemies à Dien Bien Phu. La campagne historique de Dien Bien Phu s'est clôturée par la victoire complète de nos armes. Selon les premières statistiques, nous avons détruit 17 bataillons d'infanterie et de parachutistes, 3 bataillons d'artillerie lourde et de mortiers, ainsi que de nombreuses unités blindées et d'autres unités des forces aériennes, du génie et du train. Aucun soldat ennemi n'a pu s'échapper. Le bilan total des pertes ennemies s'est élevé à 21 bataillons d'infanterie et de parachutistes, 10 compagnies fantoches supplétives, au total 16 000 hommes. Voici la liste des unités.
C'était le 7 mai que nous avons gagné la victoire.
Général Giap.
Au soir, n'est-ce pas? À 5 heures, la grande partie du camp retranché, n'est-ce pas, se rendait, y compris, n'est-ce pas, l'état-major du général Le Castries, mais c'est à peu près à 11 heures ou 12 heures, quelque chose comme ça, que la victoire était accomplie. Et le lendemain, je recevais, n'est-ce pas, un télégramme du comité central et du président, n'est-ce pas. Dans ce télégramme, il nous félicitait, n'est-ce pas, de la grande victoire. Mais je me rappelle toujours, le télégramme finissait par ces mots. La victoire est grande, mais ce n'est que le début.
Parmi les tués et prisonniers figure tout le commandement ennemi à Dien Bien Phu. On compte parmi les officiers supérieurs dénombrés le général de Castres, commandant en chef du secteur nord-ouest et commandant en chef à Dien Bien Phu, frais prisonnier. 16 colonels, les uns tués, d'autres prisonniers, parmi lesquels se trouve le colonel Seguin Pazis, le colonel Trancard, le colonel Gaucher, le colonel Langlais, le colonel Pirot. La victoire de Dien Bien Phu est sans précédent dans les annales de l'armée populaire du Vietnam. 8 mai 1954.
Marcel Bijard, qu'est-ce que vous pensez du général qui est en face de vous, du général Giap?
Giap, il a commandé en chef pendant 30 ans, en démarrant avec une poignée d'hommes, en se cachant avec quelques fusils, pour arriver à former des groupes, des sections, des compagnies, des régiments, des divisions, nous battre à Dien Bien Phu, battre l'Amérique, première défaite de la puissante Amérique. Il faut le faire, il faut le faire. mais je crois que Giap était soutenu par sa doctrine marxiste et il avait avec lui un peuple tout entier, sous l'autorité, sous la férule, le ravitaillement Dien Bien Phu, ces milliers de colis qui marchaient toute la nuit. Donc c'était un peuple qui se battait contre nous, un peuple quand même encadré et vissé quand même, hein. Parce que c'était quand même un peu une dictature, faut bien le dire.
Mais à l'époque, il vous inspirait quoi ? De l'admiration, de
Ah oui,
de
moi j'ai toujours pas de haine, non, surtout pas, non, de l'admiration, parce que j'aurais été vietnamien, pourquoi j'aurais été avec lui, sûrement. Moi, je comprends tout ça, mais j'étais français avec des patrons comme De Gaulle, comme Leclerc. Bon, ben, on y croit autant, quoi, c'est ça. Hein.
Vous auriez été avec lui si vous aviez été vietnamien ?
Hein, oui, de même que si j'avais été algérien, j'aurais été fait la guerre, pourquoi pas ? Mais je comprends, faut comprendre tout le monde, c'est ça la vie, quoi. Mais marxisme, non, ça quand même, ça aurait pas passé.
Dien Bien Phu est tombé le soir du 7 mai 1954, après 56 jours de combat et 7 ans d'une guerre oubliée. Dans le monde entier, on découvre la guerre au moment où elle se termine. À New York, à Tokyo, à Moscou, à Genève, où la conférence sur l'Indochine s'ouvre le lendemain. En France, et surtout dans tout cet empire français, qui commence ce jour-là à se décomposer. 6 mois avant la guerre d'Algérie, à 12 000 km de l'Indochine, le sous-préfet de Batna découvre les conséquences de Dien Bien Phu dans les Aurès, une des régions les plus perdues d'Algérie. Jean Delplanck.
J'avais avec des collègues visité Timgad et un envoyé m'avait prévenu que nous venions de perdre Dien Bien Phu. Et à la sortie, venant de la Meshta de Timgad, j'ai entendu des youyou. Et j'ai senti qu'il y avait une sorte de bascule qui s'était opérée dans l'opinion. Et le soir même, je me souviens, étant avec mes amis Vaujour, Dupuche, j'avais à peu près parlé de la manière suivante. J'avais dit, vous savez, le Coran dispose que toute force vient de Dieu. Nous venons de perdre Dien Bien Phu. C'est donc que nous n'avons plus la force, c'est donc que nous n'avons plus l'appui de Dieu. Et je crains que cela provoque chez les Arabes une très grande interrogation et qu'ils s'éloignent de nous. Et je me demande jusqu'à quel point ce n'est pas le début de la perte de l'Algérie.
Qu'est-ce que vous avez prouvé, Brigitte Friand, quand vous avez appris la chute du camp retranché le 7 mai ?
Écoutez, c'est affreux quand vous dites ça. J'étais dans un train entre Kyoto et Tokyo. Et je me souviens, je ne parle bien entendu pas japonais, je ne sais pas lire les caractères chinois, mais il y avait un bonhomme en face de moi qui a ouvert un journal et j'ai vu la photographie du général de Castres. Et j'ai compris que Dien Bien Phu était mort, que Dien Bien Phu était tombé. Et c'était horrible, parce qu'il y avait tous les camarades qui étaient là. Bon, ça me bouleverse encore.
Dien Bien Phu est tombé le 7 mai 1954. Tandis que les survivants du camp retranché prennent le chemin des camps Viet Minh vers ce qui sera la dernière et peut-être la plus pénible de leurs épreuves, le lendemain 8 mai, à Genève, s'ouvre la conférence qui, le 20 juillet 54, devait mettre un terme à la guerre d'Indochine.
Ici Jean Rabaut qui vous parle de Genève. À 3 heures, tandis que la séance plénière s'ouvrait sur un discours du délégué philippin relatif à la Corée, on apprenait la chute du réduit central de Dien Bien Phu. Vous n'aurez aucune peine à croire que l'intérêt de la journée genevoise était ailleurs qu'au Palais des Nations. Ici Genève, Radiodiffusion Télévision Française.
C'était Dien Bien Phu, 7 mai 1954. Avec les témoignages du général Giap, du général Bijar, du général de Séguin-Pazis, de Nguyen Dinh Thi, Brigitte Friand, Bui Tin, Lê Kim, Jean Pouget, Geneviève de Gallard, le colonel Vin et Jean Delplanque. Musique originale Dominique Massa. Texte dit par Philippe Lodenbach et Zond Van Quang. Archives de l'INA et de l'ECPA, réunies par Sophie Gazio, Annie Saunier, Stéphanie Katz. Prise de son au Vietnam, Patrick Marguerite. Mixage, Geneviève Nguyen, Claude Niort, Philippe Palares, Guy Senot. Assistant, Guy Peramor. C'était l'Histoire en direct, une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Christine Bernard-Sugy.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 mars 1992. À suivre.